Bien, donc nous allons un peu vous parler de Hugo. Donc je vais commencer par une introduction. C'est une idée assez originale. Je vais vous présenter d'abord le système de vote de Hugo, parce que c'est un truc que tout le monde ne connaît pas forcément. Et après, je vais vous parler des polémiques qu'il y a eu ces dernières années, donc tout ce qui est Sad Puppies, Rabbit Puppies.
Présente Hugo aussi, peut-être.
Bon, tout le monde connaît les Hugo quand même. Et ensuite, on parlera des textes qui ont été nominés cette année et de ceux qui ont gagné. Donc, j'ai deux éminents lecteurs à ma droite et à ma gauche, et ce sont qui font le
Recruté
boulot.
au pied levé.
Voilà.
Mais bon.
Donc, le prix Hugo, c'est un prix qui a commencé il y a très longtemps, qui est décerné lors de la Worldcon, qui est lieu généralement 4 années sur 5 aux US et une année sur 5 en dehors des US. Et c'est un prix qui est un prix du public. Donc, il se passe en deux étapes. La première étape, c'est qu'il y a une présélection qui, bon, généralement, les Worldcon se font vers le mois d'août, début août, parce que ça correspond aux vacances américaines. Donc, la présélection, c'est un moment où à peu près tous les gens qui sont inscrits à la Worldcon en cours ou à la précédente ou à la suivante peuvent proposer des titres par catégorie. Et la présélection doit s'arrêter vers décembre, fin décembre. En janvier, des listes sont effectuées gardant les 5 titres ayant eu le plus de votes dans chaque catégorie. Et chaque membre de la Worldcon, de la précédente ou de la suivante, il suffit d'être inscrit à une Worldcon sur 3 pour pouvoir voter à chaque fois, envoie un bulletin avant le mi-juillet pour voter définitivement pour le vote final.
Ça.
C'est
Moi, je
assez.
savais pas moi, que je pouvais voter l'année dernière. Parce que
Ouais, si.
je trouve ça
Alors, ce
génial.
qui se passe, c'est que suite aux polémiques qu'il y a eu ces dernières années, je vous détaillerai après. Les règlements sont en train d'être modifiés, donc il y a eu des votes cette année à la Worldcon qui devaient être approuvés la Worldcon suivante et qui limiteraient à la Worldcon précédente à la Worldcon en cours. C'est-à-dire si vous êtes inscrit à la Worldcon de l'année suivante, vous ne pourrez plus voter.
Attends, il y a déjà eu un vote l'an dernier à ce sujet, donc les votes de cette année auraient été vérifiés.
C'est pas clair parce qu'ils ont revoté sur le sujet en disant que ce serait acté définitivement l'année prochaine.
Ils ont rechangé les
Après, j'ai
règlements.
pas lu le détail. Oui, effectivement, je me suis trompé. Ouais. Il faut être inscrit à la Worldcon en cours pour pouvoir y aller. Alors, quand on s'inscrit à une Worldcon, il y a plusieurs types de billets. Notamment, il y a un billet qui est juste supporting membership, qui fait que vous n'avez pas le droit d'aller à la Worldcon, mais vous avez le droit de voter. Donc, généralement, quand on veut voter à distance de chez soi, on prend celui-là et on paye que 50 $ à peu près, au lieu de payer 100, 150, 200, suivant à quel moment on s'inscrit à la Worldcon pour y aller. Donc 50 $, vous avez le droit de voter pour des textes.
Payer pour voter, c'est un bon concept.
Ouais.
Ça s'appelle le suffrage.
Mais alors, le changement de règlement, quel effet? C'est de supprimer les supporting membership?
Non, non, il y aura toujours le supporting membership a priori. Par contre, ça va réduire le spectre des gens qui peuvent proposer des textes à la présélection.
D'accord, on n'aurait pas le droit de voter pour la nomination si on est seulement supporting member. C'est ça le.
Non, on n'aurait pas le droit de voter si on est inscrit à la convention de l'année suivante. Après,
parce que la règle actuelle était qu'il suffisait de s'inscrire à une Worldcon, mais un peu plus tard à partir de l'année, pour pouvoir
Après, il y a une autre,
nominer.
il y a une autre règle qui est en cours de vote, qui s'appelle, ils ont appelé ça E Pluribus Ugo. Je l'ai lu rapidement, je n'ai rien compris au système. Donc, je vais attendre qu'ils fassent. De toute façon, ils en ont discuté cette année, ils en rediscuteront l'année prochaine. Et si c'est voté, ça sera appliqué, je ne sais pas quand. Et je n'ai pas vraiment compris.
Une règle qui éviterait le vote en bloc.
Ouais.
C'est le but, hein. Le but c'est de barrer les Sad Puppies, Rabbit Puppies.
Non, non, enfin, tout vote en bloc,
Oui.
c'est-à-dire s'il y a 50 votes qui arrivent exactement les mêmes, ce qui est statistiquement totalement improbable, ça signifie que ça a été
Ouais.
organisé.
Après, il faut rentrer dans le truc. Je pense que ça sera encore amendé d'ici que ça passe, donc on aura le temps d'en discuter une autre convention. Donc, à l'heure actuelle, il y a je sais plus, une quinzaine ou 15 ou 16 catégories différentes de votes. Donc, il y a les quatre principales, c'est roman, novella, novelette et short story, qui se décident suivant le nombre de mots des textes. Il y a eu des débats au niveau de la Worldcon il y a quelques années, enfin au niveau de la SFWA. C'est la SFWA, la SF Writers of America, donc l'association qui regroupe les écrivains professionnels américains, qui gère le vote. Donc les débats sont à un niveau, plus ou moins.
Non, tu as fait une vraie association
Non, non, non. La SFWA gère le Nebula.
Le Nebula, c'est...
Ah oui, c'est le Nebula, oui.
C'est différent.
Le site.
Le Hugo est géré par la World Science Fiction Society.
Ah oui, c'est la WSFS.
C'est des participants de chaque convention successive et qui a aussi un organisme continu qui régule le truc globalement. Mais pour que un changement soit adopté, il faut qu'il soit voté au moins 2 années consécutives,
ouais,
pour éviter les impôts que vous pourrez donner des conventions qui se tiennent dans des endroits très différents.
Et donc je me souviens plus. Pourquoi j'avais commencé cette phrase?
Les catégories,
utiliser les 15 catégories. Ouais, donc il y a eu un débat il y a quelques années, notamment quand Vox Day était essayé de faire bouger les trucs, sur le fait que c'était ridicule d'avoir 3 catégories pour des textes courts, un seul pour les textes longs, et qu'il n'y en ait pas, par exemple, pour les séries immenses qui soient regroupées avec des textes longs simples. Mais ce débat n'a pour l'instant pas progressé. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, enfin, la limite entre short story, novelette, novella est un peu stupide, je trouve. Voilà. Et donc, après les autres catégories, il y en a 2 pour tout ce qui est film, jeux vidéo, suivant la longueur du truc. Pour l'anecdote, cette année, il y avait un jeu vidéo français, dont je ne me souviens plus le nom, Life is Strange, vous connaissez, certains connaissent peut-être, qui a reçu 320 votes, plus de 320 votes pour la présélection. Donc il aurait pu être présélectionné et éventuellement avoir un ego, sauf qu'il a été dit qu'il durait plus de 90 minutes à faire, donc il n'était pas dans la bonne catégorie, il a été éliminé. Après, comment détermine-t-on le temps, la durée d'un jeu vidéo? Je ne sais pas comment ils ont fait, il n'y a pas de précision sur ce truc-là. Dans les autres catégories, il y a 2 catégories pour tout ce qui est graphique, donc Best Professional Artist et Best Fan Artist. Il y en a pour les fan writers, et puis il y en a quelques autres. Il y a 2 catégories éditeurs, éditeurs long form, éditeurs short form. Il y a les fanzines, il y a les semi-professional magazines, et puis j'ai dû en oublier, mais enfin le reste... Comment ? Et ouais, le related work, qui sont tous les textes qui sont en gros de la non-fiction, qui sont les textes autour de la science-fiction, qui a été une catégorie, ben, je vous parlerai des textes tout à l'heure... qui a eu cette année, qui a été particulièrement sinistrée.
Ça existe encore, semi-professional magazine?
Il y a eu ouais. 2 catégories où il y a eu No Hour.
Ouais, ouais, exactement.
Enfin, c'est mieux que l'année dernière.
Donc, un dernier point, quand vous votez, aussi. Vous mettez les textes dans l'ordre de préférence et vous pouvez aussi indiquer No Award. Donc, si vous voulez que personne n'ait pris, vous mettez No Award avant les textes, parce que pour vous, aucun texte ne vaut le coup. Et ces dernières années, il y a eu notamment...
L'année dernière.
L'année dernière, c'est 5 catégories où il y a eu 7, voire 7.
Il y en a eu 5 parce que 5 catégories avaient été entièrement noyautées par
les puppies.
Deux groupements, ouais, ouais. Sad Puppies et Rabbit Puppies, qui voulaient des textes.
Voilà. Voilà. Donc, le système de vote, une fois que vous l'avez bien pratiqué, vous comprenez à peu près comment ça marche. Mais c'est pas simple au début. Alors en 2013, hein, il y a un écrivain américain, Larry Correia, qu'on connaît en France pour un texte par Viola Talente. Une trilogie. Une trilogie, ouais. Enfin, j'ai lu que le premier, c'est pour ça. Qui a décidé de promouvoir son texte en créant un groupe qu'il a appelé Sad Puppies, donc chez Autriste. Donc c'était pour que son roman Hunter Legion soit nominé dans la catégorie Best Novel. Et il disait que c'était pour montrer à l'establishment qu'on veut des romans d'action pulp qui ne soient pas surchargés de messages politiques ou autres dans les prix Hugo. Il considérait qu'il y avait trop de textes à connotation politique ou avec qui diffusaient des messages qui étaient dans Hugo et qu'il n'y avait plus de textes juste de plaisir, fun, comme ça. Ça avait évidemment une connotation politique parce que c'est quelqu'un qui est assez orienté extrême droite. Mais la première année, il a juste fait ça dans une seule catégorie pour promouvoir son texte. Et je me souviens plus s'il a été sélectionné.
Non, je crois pas.
Je crois pas la première année.
En 2014, il a été.
Alors en 2014, il a refait le même système, sauf qu'il a sélectionné des textes, un texte par catégorie dans 12 catégories. Donc ça a été, c'était plus que pour son roman. C'était vraiment des. Il y avait un truc en short story, un truc en novelette et tout ça, de divers auteurs, dont un texte de Vox Day qui était, je crois, dans la catégorie short story, si ma mémoire est bonne. Sur les 12 textes qu'il avait, comme ça, il avait dit. Il avait fait un appel à voter pour ces 12 textes. Il y en a 7 qui ont été sélectionnés. Il y a 7 textes ont passé la première étape et se sont retrouvés dans les choix de. On pouvait voter pour eux, pour les Hugo. Et aucun n'a gagné. L'année suivante, c'est Larry Correia a abandonné le truc parce que c'était trop marqué par rapport à lui, surtout qu'il avait poussé son roman propre la première année, donc il a voulu arrêter. Et c'est Brad Thorkelson, qui est aussi un auteur marqué à l'extrême droite, qui l'a remplacé pour gérer ça. Vox Day trouvait. Alors Vox Day, c'est un auteur américain, je pense, je ne me souviens plus, qui est lui carrément marqué, légèrement à la droite d'Hitler, si vous voulez. Oui. Ouais, c'est un pseudo, je me souviens plus de son vrai nom. Théodore Bell, ouais. Lui, il trouvait que Sad Puppies, ça allait pas assez loin. C'était pas assez encore de la littérature virile pour hommes. Et donc, il a créé les Rabbit Puppies où il a fait sa propre présélection. Donc, sur les Sad Puppies.
Faut quand même dire que c'est le mec qui a traité une noire de sauvage.
Ouais. C'est un gars, enfin, si vous voulez.
Il sera en prison, est-ce qu'il dit quoi.
Si vous avez envie d'avoir un choc, vous pouvez lire son blog. Donc je vous donne pas l'adresse, où vous trouvez quand même des trucs disant que l'Amérique, ça a été créé pour les Blancs, c'est une constitution pour les Blancs, donc les autres n'ont pas à le faire chier. Il a traité une auteure, c'était une quinzième, je crois. Il l'a traité de singe, comme quoi elle n'était pas vraiment humaine.
Il explique aussi que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote.
Ouais, c'est ça.
La raison de la décadence,
c'était du coup. Et le dernier truc que j'ai...
Ça, c'est pas faux, par contre.
Il a fait sur le fait que une bonne partie de la SF...
Ah, ça c'est.
Ouais.
Mais ça, on va.
C'est sa dernière.
On va en revenir plus tard. Et le dernier truc que j'ai vu sur son blog, c'est comme un truc où il explique que les États-Unis, c'est absolument pas un pays d'immigration et que tout va mal depuis qu'il y a des Irlandais et des Juifs. Donc il remonte quand même assez loin. Je pense que les immigrations les plus récentes, faut même pas savoir ce qu'il en pense. Quoi.
Ouais, il habite en Italie en plus.
Ouais, c'est ça, il aurait pu faire un très bon personnage dans Rêve de Fer. Hein. Donc en 2015.
Ben, à part ça, il a l'air sympa quand même.
Voilà. Et attends, un dernier point que j'ai oublié sur lui, il est aussi lié au Gamergate.
Ah oui.
Le Gamergate, c'est à peu près le même mouvement, mais dans le monde du jeu vidéo, ils ont trouvé quand même. Les jeux vidéo actuels, c'était un peu trop sophistiqué. Puis en plus, il y avait des filles qui faisaient du jeu vidéo, voire qui faisaient des critiques de jeux vidéo. Et donc les jeux vidéo c'était comme un truc d'homme blanc et il fallait que tout le monde dégage. Et c'est, dans le Gamergate c'est allé beaucoup plus loin, c'est allé jusqu'à du harcèlement, du swapping où on appelle la police qui débarque chez vous et tout. C'est allé vraiment menace de mort et tout ça quoi.
Ah, je suppose qu'il ne faut pas de japonais dans les...
Ça dépend des japonais, hein. Il y en a qui sont quand même...
Il a une maison d'édition
qui est hébergée en Norvège ou en Suède, je me souviens plus.
En Finlande.
Qui s'appelle Castalia House. Et sur lequel il fait aussi des trucs assez rigolos. Il explique que tout le monde milieu américain est très jaloux de Castalia House parce que c'est la maison qui a la plus grosse progression et qui paye le mieux les auteurs.
Ah, il se nomine lui-même dans les catégories éditeurs.
Voilà. Oui, oui.
C'est un héritier en fait. Son père est à peu près. Son père a à peu près les mêmes idées que lui et il a hérité sa fortune en fait de son père et donc son hobby c'est de faire chier le monde en gros. Je pense que c'est un peu ça quoi. Il a de l'argent pour payer sa maison d'édition et il s'amuse, quoi. Un peu moins d'argent.
Donc en 2015, sur la liste de Sad Puppies, il y avait 60 textes pour vraiment couvrir toutes les catégories. Enfin, 60 nominés, parce qu'il y a des textes, mais c'est aussi le best editor et tout ça. Et Rabbit Puppies, il y en avait 67. Et là, lors de la présélection, il y a 51 des 60... Sad Puppies et 58 des 67 Rabbit Puppies qui se sont retrouvés sélectionnés pour les votes. Donc, dans 5 catégories, donc novella, novel, éditeur, short form, éditeur long form et related work, il n'y avait que des textes issus des Sad Puppies ou Rabbit Puppies. Et donc, il y a eu des appels à voter No Award très fort, notamment de la part de G.R.R. Martin. Il y a eu des débats assez, vraiment très musclés, hein, ça s'insulte facilement sur ces débats l'année dernière. Et No Award a été en tête dans les 5 catégories. C'est-à-dire que le fandom a globalement voté No Award dans toutes ses catégories.
Pour être juste, en même temps qu'on est familier qu'on supporte Award de la convention en cours, on a la chance de recevoir vraiment au printemps ce qu'ils appellent Hugo Package depuis quelques années grâce à ce qu'elle dit.
Voters
Package. Et qu'en fait, on reçoit en version numérique la plupart des textes qui sont nominés. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a No Award, on pouvait avoir le courage, et on l'avait voté pour certains, de lire les textes pour voir s'ils étaient aussi mauvais qu'on le disait, s'ils méritaient vraiment pas les nominations, ils ne méritaient vraiment pas. Mais si on voulait se faire une idée, ce n'est pas uniquement un vote d'un vote idéologique, c'est que les textes qui étaient présentés et qui étaient dans chaque catégorie, les textes numériques qui étaient proposés, étaient. C'est, la plupart du temps, c'était la merde. Donc, quelque part, le gros package qui était fait comme un cadeau au départ pour les votants, leur disant vous pouvez avoir une version numérique des textes de tous les meilleurs textes de l'année, c'est plus devenu les meilleurs textes de l'année, c'est devenu les pires textes de l'année, mais une des conséquences avait été que tout le monde, de bonne foi, pouvait voter.
Oui, bah, moi je les ai lus à chaque fois et j'ai beaucoup souffert.
Voilà.
Notamment, la première fois qu'il y a eu un texte de Vox Day, j'ai lu par curiosité, parce que je connaissais très peu de personnages, et c'était exécrable, mais vraiment exécrable. C'était une histoire avec des elfes qui étaient des êtres beaux, supérieurs, intelligents, grands et blonds. Et les trolls étaient des petites créatures viles. Et c'était d'un ridicule achevé face à un gars qui avait bien lu Tolkien, visiblement, et qui mettait des notions de race hallucinantes dans ce texte. Et c'était très mauvais, il n'y avait même pas d'intrigue ni rien. C'était une grande souffrance la lecture de ça. Et donc cette année-là, il y a quand même un gagnant qui venait d'une liste 7 puppies, rapid puppies, c'est le film Gardien de la Galaxie. Voilà. Mais les gens du film n'avaient absolument pas demandé d'être sur les listes. Hein. Je vois ça.
Non, mais dans leur liste, il y avait quelques rares questions.
Il faut dire qu'il y a des gens qui se sont ôter des listes des votes quand ils ont vu qu'ils étaient soutenus. Ah, pardon. Merci.
Et donc, en 2016, il y a eu une nouveauté, c'est que Sad Puppies a essayé d'avoir l'air plus propre. Donc, ça a encore changé de responsable. C'est devenu. Je n'ai pas marqué, c'est une femme, je ne me souviens plus de son nom. C'est une écrivaine. Et donc, au lieu de faire juste une liste figée, décidée par quelques personnes de vote, ils ont fait des débats sur leur forum de discussion pour faire une liste de recommandations. C'est-à-dire, tous les gens pouvaient aller voter sur leur forum et ils ont pris les recommandations des textes qui étaient le plus votés. Donc du coup, ça a énormément élargi les listes Sad Puppies. On s'est retrouvé avec Alastair Reynolds, Neil Stephenson et tout ça qui n'avaient effectivement rien demandé. Alastair Reynolds a tout de suite demandé à être retiré de la liste. Et la gérante de la liste a dit « Non, je ne le retire pas, mais je mets une étoile disant que tu ne veux pas en faire partie ». Mais tu seras quand même sélectionné sur notre liste. Et par contre, Rabbit Puppies a continué avec liste fermée, ouais, avec les pires textes.
Ce que je voulais dire, c'est que l'année précédente, donc pas cette année, il y a des gens qui étaient nominés vraiment au Hugo et qui se sont retirés en disant « Moi, je suis très flatté d'être nommé au Hugo, c'est le rêve de ma vie, tout ça. » Sauf que j'ai été nommé parce que les Rabbit Puppies ont fait une consigne de vote et des gens ont voté sans réfléchir, sans peut-être même avoir lu mon texte, parce qu'on leur avait dit ça. Donc. Et surtout, je ne soutiens pas ce mouvement et l'idéologie derrière. Et donc, des gens se sont quand même retirés. Il y a eu moins deux ou trois.
Ouais. Et ça a eu un effet de bord extrêmement amusant, d'ailleurs, cette année-là. C'est que le livre qui a gagné le Free Body Problem de l'écrivain chinois n'était pas sélectionné à l'origine. Oui. Il était arrivé sixième. Et comme quelqu'un a dit « Je ne veux pas que mon roman soit dans la liste », c'est que Xing Yu est rentré dans la liste et il a gagné. Donc en fait, c'est l'extrême droite qui a fait gagner un écrivain chinois, ce qui est quand même assez drôle.
Et tu parles des Alfi ou pas? Les remis de...
Non, j'y avais remarqué.
Non, vas-y. Et du coup, l'année dernière, comme il y avait des gens qui s'étaient enlevés des listes et puis que c'était un grand le bordel, George Martin a décidé de faire sa propre remise de prix après les Hugo. Et donc, il a fait les Alfie Awards, un hommage à Alfred Bester. Je ne sais plus pourquoi l'explication. Parce que je ne sais pas.
Parce qu'il n'a jamais gagné, je crois.
Ouais, je ne sais plus exactement.
C'est lié à Hugo Boussard.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Il a
en fait, depuis 1976, et depuis que Martin avait perdu en étant nominé au Hugo, en fait, à la fin de chaque cérémonie des Hugo, il y avait le Hugo Winner Party. Tous les vainqueurs se réunissaient et leurs copains venaient et ils faisaient une grande festa. Sauf que les losers Gourmet. Tous les quatre autres nominés qui n'avaient pas gagné. Donc Martine a lancé une loser party, sauf avec des gardiens de soi, sauf qu'en fait c'est devenu tellement cool cette loser party que tout le monde voulait venir et en faire partie. Donc il fallait montrer qu'on était un loser pour pouvoir entrer dans cette partie.
Ouais, et puis l'année où Georges Martine a gagné deux Hugo simultanément, je crois que c'est en 81, il a dit he's going to scrap a credentials at the Hugo Loser Party.
Mais apparemment pour rentrer, il faut. Tu fais un peu bisuter, si t'as gagné un Hugo, tu te fais bisuter pour rentrer dans la...
Si t'as gagné un Hugo, il faut expliquer en long et en large pourquoi t'es un loser à l'entrée, sinon on
dirait. Et donc l'année dernière, il a couplé ça avec les Alfie Awards qu'il a créé, et donc il a fait faire des prix et tout, et il a remis ses prix aux gens qui étaient nominés...
Donc
et qui
que lui pensait mériter.
Le Hugo, voilà. Ouais, donc c'est le contre-Hugo, quoi. Et je sais pas s'il a refait cette année ou pas, il a refait...
Alors du coup, est-ce
que Hugo est fier de la production ? Alors on va y venir, il va y venir.
C'est un prix du public.
Voilà. Alors, et le dernier truc à savoir sur Sad Puppies, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sur leur site web, effectivement, ils ont une image plus propre. Et ils disent uniquement qu'ils font ça parce qu'ils trouvent anormal qu'un domaine comme la science-fiction, qui a autant de lecteurs, lors du vote pour les prix Hugo, il n'y a que près que 2000 votants. Et c'est pas normal, ils devraient avoir plus de trucs. Et ils disent, ils justifient leur travail en disant ça va amener plus de gens au vote. Ce qui a été plus ou moins vrai, mais pour de mauvaises raisons. C'est, par exemple, au vote qu'il y a eu à Londres en 2014, on est monté à 5000 votants. Mais c'est là qu'il y a eu 2014 ou 2015. Enfin, il y a un moment, c'est monté à 5000 votants au lieu de 2000. Et c'est là qu'il y a eu 5 catégories où il y a eu Nova. 2015. Et cette année, il n'y a plus qu'une seule catégorie où Nova a gagné. C'est-à-dire qu'il y avait une seule catégorie où il n'y avait que des trucs venant des puppies. Enfin, que de vrais textes venant des puppies, parce qu'il y en avait d'autres, mais... Enfin, Alastair Reynolds, par exemple, je ne peux pas le compter comme puppies, c'est pas ça, ce ne serait pas sérieux.
Il y a eu deux.
Il y a eu Related Work et...
Et les essais, non ?
Éditeur, non ? Bah, j'ai la liste, là.
Les essais, non, je crois.
Bah, c'est Related Work, c'est ça.
Ah, ouais.
Non, pour moi, il n'y en a qu'une. Ah non, Best Fan Cast, mais c'est peut-être pour d'autres raisons.
Non,
j'ai pas regardé le détail sur les fancasts.
Les puppies avaient sévi très fort.
D'accord.
Justement dans le fan.
Et donc cette année, je crois que ça a redescendu à peu près 3000 votes. Je pense qu'il y a eu moins de mobilisation sur du côté puppies et donc il y a moins de catégories où No Award a gagné.
Juste pour dire, quand on est servi de vote, il me semble que Jean-Martin avait aussi appelé.
Ouais. Ouais. Tout à fait. Mais donc, c'est la question que posait l'ami tout à l'heure. C'est aujourd'hui, beaucoup de gens se déterminent au vote, soit en fonction des puppies, soit en opposition aux puppies. Et le défaut, on voit cette année, sur les quatre catégories, il y a trois femmes, dont deux noires. Et bon, il y a un texte. Il y a des textes qui sont très bons, mais il y en a aussi qui sont très mauvais et qui ont eu le prix. Et difficile de savoir pourquoi ils ont eu le prix. Il y a ça. Si vous lisez les articles de la presse généraliste, dans le Guardian, les trucs comme ça, tout le monde dit les puppies ont perdu parce qu'ils n'ont pas eu de catégorie où ils ont eu un prix. Sauf que dans la réalité, la légitimité même du prix Hugo est remise en cause parce qu'on ne sait plus si les gens ont voté pour les qualités des textes ou par opposition à un des deux groupes.
En même temps, quand tu as une vision historique de gens qui sont là depuis longtemps, en suivant les World Cup depuis 40 ans par exemple,
il ouais.
y a toujours eu des listes type ce qu'on pourrait essayer de faire les puppies. En tout cas, moi, c'est ce que...
J'ai vu ces commentaires, j'avais suivi ça.
Moi,
jamais.
Je pense que ça n'a jamais été à ce point-là. Quoi. Il est arrivé qu'un éditeur demande à voter pour des trucs.
Internet amplifie les choses maintenant, et les réseaux sociaux encore plus. Mais à l'époque, il y avait quelques centaines, dizaines de votants, des fois. Donc, quand tu veux t'organiser et faire des luttes de pouvoir...
Certains cas sont connus, mais il s'agissait par exemple de faire passer un roman. Par exemple, il y a eu une année, dans les années 60, où l'association des amis Edgar Rice Burroughs, qui était mort depuis quelques temps, mais dont un roman inédit avait été retrouvé et publié la bonne année,
c'était vraiment plus complet. Bah, il y a eu un peu pareil à moindre échelle quand c'est Thor, je crois, qui avait appelé à voter pour le cycle de Jean-Robert Jordan de la Roue du Temps. Parce qu'on peut voter pour un cycle si aucun des romans du cycle n'a eu de prix. Donc comme la Roue du Temps n'avait jamais eu de prix, ils ont appelé et le cycle a été sélectionné quand même. Oui, c'est autre chose, oui.
Bah faire une liste, quoi, tu vois. Enfin,
L'appel public, ça concernait un livre ou un auteur. Là, le but, c'était de remplir toutes les catégories avec tous leurs titres, quoi. Donc, c'était vraiment un bourrage d'urne massif.
Ouais, c'est pas juste de la promotion.
En fait, ils promeuvent des listes et non pas un livre.
Oui,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Un
livre,
mais ce qu'ils appellent des slates, c'est-à-dire des listes entières.
Non, tu as raison, c'est pas clair du tout. Il n'y a pas de manière bien claire avec Internet de séparer les choses. Mm-hmm. Mais ils ont dans l'esprit le truc, quand tu as tout un tas de gens qui sont membres d'une association et quand au sein de l'association on dit à tous ces gens, ils ne votent pas d'habitude, vous votez tous et uniquement pour ce truc-là. D'ailleurs, je crois qu'à la suite, ils ont fait des règles disant que tu ne peux pas mettre un seul titre sur les nominés, des choses comme ça, des règles qui n'existaient pas avant.
Par exemple, dans le cas de La Roue du Temps, l'éditeur appelle à voter pour La Roue du Temps, mais c'est les fans qui ont lu La Roue du Temps qui vont voter pour.
Pas forcément.
Bon. Enfin, vous n'allez pas nous parler un peu des œuvres qui ont été
utilisées. D'accord, on va passer à la suite. J'ai pas vu le détail, je sais qu'il y a eu pas mal de trucs à Mid American 2 sur la gestion des votes et tout ça, mais j'ai pas vu le détail, j'ai pas pris le temps encore.
Pour le redit, c'est une question d'exécution, hein. C'est pas...
Il y a aussi de longues discussions sur le smart code.
On n'est que 5, mais en sélection 6, tu empêches mathématiquement un bureau de journalisme sur 5 titres. L'avantage, si tu veux, de ce genre de discussion là, c'est que c'est un système qui est profondément conservateur. Qui marche depuis 53. Donc essentiellement, comme disait René Mar, quand on en a une idée et qu'on la propose à une motion pour qu'elle soit votée, il faut qu'elle soit votée exactement dans le même terme l'année suivante pour avoir une idée passée. Et toutes les discussions que tu dis là, si on ne peut ne pas changer le règlement qui existe, on ne le change pas. Il y a des discussions des fois pendant 10 ans, pourquoi est-ce qu'on rajoute une catégorie? Les fancasts, tout ce qui est audio, les podcasts, etc. C'est tout récent. Donc, c'est un système profondément conservateur. Là, il réfléchit à pouvoir changer, mais essentiellement, pour les échos que j'ai eus des discussions sur la dernière Mid America, c'est essentiellement on a voté pour continuer à réfléchir et ne rien changer pour l'instant. Parce qu'il faut très bien que dans 2 ans, quand vous avez décidé de faire autre chose, et que ça soit une tempête dans le verre d'eau et que ça revienne à la normale. Et on n'a pas changé les règles parce qu'il y a un fonds qui essaye de faire une telle
réflexion. On prend le temps de réfléchir, c'est pas.
C'est leur principe, c'est ça, c'est les conservateurs maximales au niveau des règles de jeu.
Et puis ils sont pas d'accord du tout entre eux sur les règles à adopter aussi. Hein. Là, c'est clair.
Ok, donc on va vous décrire rapidement les textes dans 5 catégories. On va faire best novel, best novella, novelette, short story. Et je vais vous faire un peu le related work parce que ça vaut le coup de savoir quand même ce qui peut arriver dans des catégories comme ça. Donc on va commencer par le best novel et puis par le texte gagnant qui est la 5e saison de NK Jemisin. Juste comme ça, pour l'instant je ne crois pas qu'il y ait d'éditeur français qui a acheté les droits. Je pense que ça doit s'agiter en ce moment, je suis dans les maisons d'édition, mais je ne suis pas au courant sur ça pour l'instant. Donc je passe la parole à celui qui a lu le livre. Il est parti.
Oui, j'ai commencé le livre en fait, effectivement. Donc The Fifth Season, c'est un livre qui est paru il y a un an, là, il y a quelques semaines, il y a la suite qui est parue. The Obelisk Gate, hein, la suite. Bon. Donc The Fifth Season, c'est donc écrit par une auteure, donc noire, et donc elle a gagné le Hugo là, et c'est, elle est en partie donc du coup attaquée par Vox Dei comme quoi c'est comment il dit ça, un charity award, bon voilà, un truc tu l'as pas mérité, c'est juste parce que t'es noir, quoi. Et donc en lisant le bouquin, bon, on peut pas de façon donner crédit aux paroles de Vox Dei, mais donc le bouquin est très bien. C'est de la, c'est comment dire, c'est, oui, c'est de la science-fiction avec un, comment dire, un pitch. On sent qu'effectivement il y a quand même une influence de la race, on va dire, du contexte racial américain, c'est-à-dire qu'on sent vraiment l'influence de l'esclavage. Il y a vraiment le thème de l'esclavage qui est infusé dedans, et le traitement social des catégories qu'on considère inférieures. Tout ça sur un fond de monde, enfin, c'est pas la Terre, hein, un monde tectonique où en fait régulièrement la Terre tremble et détruit tout. Et donc ils appellent les saisons les épisodes où la civilisation se reconstruit. Donc là, ils en sont à la cinquième saison. Donc il y a eu 4 saisons qui ont pété la civilisation avant. Mais l'Empire actuel a réussi à survivre aux 4 saisons. Et là, donc, le bouquin démarre, le prologue, par quelqu'un qui déclenche la cinquième saison. Donc il arrive sur la capitale. Je spoil un peu, hein, mais c'est juste l'intro. Il arrive sur la capitale, il a à côté de lui une statue animée, il envoie ses sens dans la terre, il repère la plaque de basalte en dessous de la cité et il la casse en deux. Voilà. Et là, il y a des volcans, il y a l'hiver nucléaire, ça se passe pas bien. Et ensuite, on se retrouve à suivre soit une femme qui subit en fait les contre-coups de ce cataclysme, soit une jeune fille qui apparemment va dans la même est arrachée à ses parents parce qu'elle fait partie de la caste, enfin elle a des pouvoirs sur la Terre, soit une jeune femme qui a aussi des pouvoirs sur la Terre. Voilà. Et donc en fait ces trois personnages ont des chapitres qui sont intercalés. Et on s'aperçoit vite qu'en fait, ils se passent pas au même moment. Donc tout le roman, ça va être de réussir à synchroniser quand chaque chapitre se passe et comment lier entre eux. Et donc le bouquin a gagné le Hugo parce que l'auteur a quand même du talent pour vraiment différencier les personnages et faire en sorte de montrer que la femme d'âge mûr qui est relativement cynique, choquée, c'est très froid, comme on en discutait avant, c'est à la troisième personne même, tellement c'est désincarné. La jeune fille, c'est très naïf, la jeune femme, c'est assez cynique. Donc c'est très maîtrisé, ça parle pas mal de l'esclavage d'une minorité, tout en gardant quand même une certaine influx de la science-fiction, on va dire, parce qu'il y a quand même des obélisques, donc c'est le titre du second de la suite, mais des artefacts extraterrestres ou de civilisations d'avant, et à la fois des pouvoirs magiques, on va dire, hein, psioniques, tout ça.
Ça fait beaucoup penser à des cycles de Tal Dereker, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais humain plus humain, les motifs, les trucs de raison, etc.
Ah ben.
C'est très proche.
Ah non, mais il y a vraiment des références qui sont assumées.
J'ai lu une critique qui faisait référence à Butler, en effet.
C'est très clair, hein, parce que tout ce cycle-là, qui commence avec humain plus humain, qui se termine avec le maître du réseau, c'est vraiment des thématiques très proches.
Oui, mais il y a... Il y a vraiment une grosse influence, de toute façon, dans la communauté, comme ça. Et même, on le voit dans les articles qui commentent le Hugo, qui qui disent vraiment que c'est une victoire, pas seulement pour Jemisin, mais pour la communauté noire. Donc en fait, là-dedans, ils incluent effectivement Octavia Butler, entre autres. Et, voilà.
Au
corps fort, qui, qu'on on va en parler plus tard. Ouais. Donc ça, c'est pour le gagnant. Je ne sais pas si... On... je l'ai en e-book, donc...
Raté.
ouais, j'ai même pas vu la couverture, effectivement, ouais.
Tu peux peut-être dire un morceau.
Ouais, je vais dire un mot sur les deux suivants. Ouais, les Eprutid et Ancillary Mercy. Parce qu'en fait, c'est dans la même... ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est deux auteurs, deux femmes. Donc, Ancillary Mercy, qui est arrivée troisième, donc, a été nominée sur les deux Hugo d'avant aussi. Donc pour Ancillary Justice et Ancillary Sword. Et c'est clairement là aussi du militantisme féministe. Enfin, au moins, elle a fait parler d'elle parce que, au moins, il y a un gimmick, un petit truc.
On la connaît. Hein.
Oui, bah, depuis son roman Ancillary Justice, qui était son premier, qui a gagné le Hugo, justement, il y a en 2014. 14, ouais. Et donc son truc, c'est qu'elle n'utilise pas elle utilise elle à la place tout le temps. Donc il y a quand même un parti pris marqué pour qui est lié un peu peut-être aux revendications. C'était The Working, il me semblait, où il y avait des revendications pour remplacer tous les mots dans la langue américaine quand on disait. Woman, par exemple, woman, il y a men dedans. Et il disait, il fallait pas qu'il y ait men, donc il voulait remplacer le E par un Y, woman. Et il y avait un courant comme ça.
Pour ce roman, j'ai lu les trois, hein, le coup de
ouais.
Effectivement, c'est une civilisation où il n'y a pas de distinction de genre, et vu que le langage n'a pas de distinction de genre, la traduire en anglais, il n'y a que des chiffres, des
ouais.
Et le personnage lui-même, le personnage que l'on suit le plus, finalement, on ne sait pas dans toute la trilogie, enfin, je ne vais pas spoiler.
Et beaucoup de personnes, tous les personnages, on ne connaît pas leur sexe.
Les personnages, on ne connaît pas.
Il y en a, t'arrives
à le connaître. En fait, ça n'a pas d'importance.
Oui, oui.
Et donc, dans le film, on a l'impression de l'horreur. C'est pas tant d'identité qu'une idée de SF.
Dans le premier volume, c'est pas exact, en tout cas pas dans la traduction française.
En tout cas, je ne sais pas pour la traduction française, je vais dire en anglais. En tout cas, on peut dire, effectivement, c'est une idée. On parle de la théorie du genre, etc. Mais en tout cas, ça reste une super bonne idée.
Oui.
Et ça se lit merveilleusement.
Oui, oui, oui.
C'est pas un livre militant.
Non, non, c'est pour ça que je dis que c'est un gimmick, c'est un petit truc qui indique quand même qu'elle est quand même dans cette mouvance. Mais c'est vrai que le livre, c'est de la SF d'abord, c'est pas un manifesto féministe.
Ce que j'allais dire, on apprend quand même, il y a un petit moment, dans le cas des personnages principaux, je
ne
sais plus comment
ça
s'appelle,
je crois
qu'il y a le chef
qui apparaît
en.
Oui, en
Andermanianai.
Ouais. Je sais pas.
Pour le.
Pour
le. L'empereur, l'empereur
ou impératrice,
ouais.
C'est plus compliqué parce que j'ai l'impression que.
Il s'est fait des clones.
Les clones ne sont pas du même sexe.
Du même sexe, ouais.
Ah, c'est
aussi
en
clones.
Ouais.
J'ai pas lu
les. Oh, c'est.
Arrêtez, j'ai pas lu. Arrêtez tout.
Bon, c'est des gros spoilers. Ah,
oui. Ouais. Passe au suivant.
Ok, ok. Vous passez à la suite, tout à ça.
Ouais.
On sait au final que certains personnages sont en réalité de cette façon-là.
Oui.
C'est vraiment un parti pris.
Oui, c'est un parti pris.
Dans
ouais.
La façon dont on l'a
fait.
Et en plus, qui est très intéressant, c'est le côté de la machine.
Ah, ouais, mais on va.
Il faut accélérer.
On va accélérer, ouais, ouais. Ouais, c'est. Oui, c'était. C'est, ouais. Et donc, je voulais juste glisser juste un mot sur Naomi Novik, donc, qui est un petit qui a gagné Nebula, et qui est pareil, qui est donc une femme qui est attaquée aussi par Vox Day parce que, apparemment, pour lui, dès qu'on est une femme et qu'on gagne un award, c'est donné parce que c'est les gauchistes qui ne veulent pas donner des prix aux œuvres qui ont du. Non, non, non. Là, c'est un one shot en fait, enfin un standalone. j'ai lu, qui est un peu de la romance, mais qui est plus, j'ai beaucoup plus aimé que ça, assez rythmé. Hein. Voilà. Donc,
C'est
de
la fantaisie archi banale.
C'est plutôt. Il y a des.
C'est ahurissant que ça ait eu de
rendre. C'est ça, ouais, mais. Je pense que c'est de la. Le côté romance atténué en plus par de la fantaisie, donc elle n'est pas trop à fond dans l'un, pas trop à fond dans l'autre. Du coup, ça a plu à pas mal de monde parce que c'est léger.
Ouais, ça pourrait être léger.
Ouais, voilà.
Si ça, c'est un des meilleurs romans américains, ben. Oula.
Ah oui, non, il y a côté substance, il y en a plus dans le Anne Leckie que dans le que là-dedans, c'est ça. Dans le cas de Missine aussi.
Un mot rapide sur Seven Elves.
Ben ouais, non, c'est très bien, Seven Elves, c'est Steve Johnson, tout le monde le connaît. C'est de la vraie SF en deux parties avec la Lune qui est percutée par un astéroïde qui explose, donc la Terre est condamnée à terre, et on essaie de sauver l'humanité en envoyant un bricolin à l'ISS pour faire survivre voilà, quelques spécimens le plus possible. Et la deuxième partie, Seven Elves de Neil Stephenson.
C'est mieux que je dis
alors. Ouais.
Ouais.
Mais il est venu en quatrième, en particulier, parce qu'il était sur la liste des puppies.
Ouais, mais c'est quand même un super bon point. La deuxième partie se passe 4 ou 5 000 ans plus tard, on suit les descendants de ces gens-là.
Bon, le roman de Jim Butcher, on va passer, parce que ça n'a pas d'intérêt.
Butcher, il est sur la liste des puppies depuis toujours, en fait. Ils aiment bien, parce que c'est de la testostérone avec de la magie.
C'est rigolo.
Oui, c'est rigolo. Ouais. C'est ça.
Deuxième catégorie, best novella. Laurent, je te laisse parler de Binti.
Ben alors, j'ai l'impression que c'est un peu le retour de bâton de l'année dernière, où il y avait des noirs, tout ça. C'est cette année, et on a décidé de faire chier Boxley, clairement. Quoi. Donc, voilà. De voter pour une femme et une noire, ça devait faire plaisir aux gens. Politiquement, idéologiquement, c'est super d'avoir fait ça. Le texte, comme disait André, si c'est ça la meilleure. C'est quoi, Novella de l'année. C'est un vague ressuscité d'alien avec du. Oui, un propos très politique. Ça tient à cœur à l'auteur et c'est pas inintéressant. C'est pas écrit merveilleusement bien.
C'est une belle naïveté totale.
Après voilà, c'est oublier les bisounours.
C'est profondément naïf.
Tout le monde n'est pas d'accord.
Ouais, certainement parce que.
Discuté à midi, il y a des gens ici.
Il a énormément de critiques positives. On leur a eu le prix. Mais moi, je trouve ça d'une naïveté totale et bon.
Puis même d'une simple point de vue littéraire. C'est pas d'une qualité flamboyante, quoi. Loin de là. C'est bien exécuté, mais il n'y a pas de vraie idée de SF. Il n'y a pas de vraie idée de SF et l'intrigue est assez banale. Hein. Voire même un bon plagiat. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un gage de qualité. Il y a eu des prix Hugo merdiques depuis le début. Enfin, voilà, c'est pas.
Alors, dans la même catégorie. Je pense qu'on va vous parler d'un seul autre texte, c'est le Slow Bullet d'Alastair Reynolds, qui pour moi aurait dû gagner. C'est vraiment un très très bon texte. En une centaine de pages, Alastair Reynolds crée vraiment un univers complet avec de l'action, de l'aventure, des problématiques de voyage spatial, de voyage dans le temps, d'arriver sur une planète morte et tout ça. C'est vraiment un texte qui est que j'ai trouvé merveilleux. C'est vraiment du plaisir, c'est du sense of wonder pur. Et s'il y en a un à lire, c'est celui-là. Je sais pas si d'autres gens l'ont lu ici.
Oui, il y a 3 idées par page. On reproche souvent à Reynolds de faire trop long. Bah là, il fait plus court et disons qu'il y a une espèce de densité d'idées. Et oui, ça, c'est pas que ça passe mieux. Il aurait pu faire un très long roman avec il y a tellement d'idées, c'est tellement touffu. Mais à ce format-là, ça marche très bien. Il est très très fort pour ces formats intermédiaires. C'est vraiment. C'est bien bien supérieur à Binti qui a gagné.
C'est parce que l'équivalent de ce que Strauss avait fait avec Palamsès.
C'est mieux. Moi je préfère. Palamsès c'était très complexe.
Non, c'est
Strauss. Non, je confondais avec un truc de Valentin.
Bon, catégorie suivante, novelette. Alors, la gagnante, c'est Hao Jingfang avec Folding Beijing, qui est un texte, donc c'est une auteure chinoise, c'est un texte extrêmement politique, où pour contrer les problèmes de surpopulation en Chine, en fait, Beijing, a été séparé en trois villes. Il y a une ville pour les riches, une ville pour les pauvres, une ville pour les vraiment les très pauvres, la classe laborieuse chinoise. Et en fait, ces trois villes se suivent à la surface. C'est-à-dire quand il y en a une qui est à la surface, les deux autres sont en dessous et les gens dorment. Et donc, la ville des riches a le droit de rester la majeure partie du temps. Et puis en fait, les villes de pauvres et de très pauvres sont amenées à la surface beaucoup moins de temps, uniquement quand il faut qu'ils fassent leur boulot, qu'ils fassent le ménage.
Donc 40 heures d'affilée, il faut qu'ils prennent leur cachet pour dormir 40 heures d'affilée.
Donc l'histoire raconte, c'est un personnage qui vient de la ville la plus pauvre et qui passe par des fissures de jointure d'une ville à l'autre pour aller dans la ville la plus riche parce qu'il a vu une belle fille qui était dans la ville la plus riche et pour essayer de se mettre au niveau des plus riches. Donc c'est un texte qui est vraiment ultra contestataire de l'état actuel de la société chinoise. On peut presque être surpris qu'il soit publié. Bon, après, il faut savoir qu'en Chine, aujourd'hui, il y a vraiment deux blocs. Il y a le bloc ultra-capitaliste qui dirige le pays. Et il y a aussi une vague qui est quasiment pour le retour à la période maoïste, qui est vraiment dans le communisme pur et dur. Il faudrait voir s'il n'y a pas eu des jeux de pouvoir entre ces trucs-là qui expliquent qu'un texte pareil puisse sortir en Chine. C'est un texte qui est... Il n'est pas très bien maîtrisé, il y a quelques défauts, mais vraiment la thématique est extrêmement intéressante et pour connaître la Chine, enfin c'est vraiment un truc qui parle de la Chine actuelle, c'est vraiment passionnant pour ça.
C'était publié en Chine ?
Il faudrait que je vérifie, mais je pense que oui. C'est une auteure qui est assez connue en Chine.
Oui.
Elle a été traduite par Camus et elle était présente à la cérémonie. Donc en fait, il y a.
Et elle est assez jeune, elle doit avoir une trentaine d'années, je pense. Elle a l'air jeune.
Oui,
c'est tout à fait possible que ce soit un message ou quelque chose comme ça.
Il y a de toute façon une association officielle des auteurs chinois pour promouvoir la science-fiction chinoise à l'étranger. Donc, en partie, les principaux auteurs proposent qu'on
peut. Puis il y a une espèce de côté exotique aussi. Tu es en train de lire un texte chinois, tu te dis putain, je lis un texte chinois. On a, je sais pas, un siècle d'histoire de SF presque, et on a pas lu beaucoup de textes chinois quand il y a.
Et puis,
ce texte il est vraiment bien. Il y a des bonnes idées.
C'est vraiment un texte qui vaut le coup d'être lu. Ouais. Autre texte qui est dans cette catégorie-là, on va parler d'un seul autre. C'est le Hobbit de Stephen King.
J'ai pas lu.
Bon, c'est moi qui en parle.
Mais au moins, le texte chinois, il méritait son prix.
C'est Stephen King. C'est un texte qui est, tu sens que c'est un super pro, qu'il maîtrise bien et tout du début jusqu'à la fin. Sauf que c'est un texte qui a été traité par Frédéric Braun dans une de ses nouvelles en 4 pages. Dit que ça valait pas forcément le coup. En fait, c'est quelqu'un qui a le pouvoir quand il dit quelque chose que ça se passe. Et ça rappelle le texte de Frédéric Braun où le gars, quand il veut la mort de quelqu'un, il le dit et la personne meurt. Je me souviens plus du nom de ce texte, je l'avais trouvé. Et Frédéric Braun faisait ça mieux en 4 pages. Quoi. Mais c'est sympa à lire. Voilà, c'est pro, c'est bien fait. Il sait gérer des personnages, il sait créer un personnage en quelques lignes qui a l'air crédible et tout. Et bon. Et les autres textes, c'était vraiment des trucs qui n'avaient aucun intérêt. En short story, tu as lu Cat Picture Please? Alors celui qui a gagné, c'est Cat Picture Please de Naomi Kritzer, qui était dans Clark's World.
Alors là, c'est incroyable. C'est vraiment très mauvais. C'est un truc que j'aurais lu dans une revue mensuelle. J'aurais dit même, mais ça a été publié dans Clark's World, je crois.
Ouais.
Déjà, je suis même étonné que ça a été publié dans Clark's World. C'est une intelligence artificielle qui explique qu'elle essaie de changer la vie des gens et qu'elle se fait payer avec des photos de chats. C'est pathétique. Si un auteur de SF entrevoit l'intelligence artificielle comme ça, je sais pas, c'est un truc pour un enfant de 15 ans.
Ouais, c'est un texte qui a à peu près aucun intérêt, sauf que les autres textes de la catégorie sont pires.
Ah bon.
Et notamment, il y avait le Space Raptor Bot Invasion, qui est un texte parodique fait par un écrivain gay qui fait des textes courts
sur Amazon.
C'est un gars qui est tout seul dans une base spatiale et puis un jour il commence à s'ennuyer, un jour il regarde par la fenêtre et il voit un scaphandre arriver et dans le scaphandre il y a un tyrannosaure. Et donc il accueille le tyrannosaure, ils font son pote et tout et puis ça finit par une sodomie avec le tyrannosaure et le pauvre homme qui est là qui dit vas-y mets-moi tes grosses pattes et des trucs comme ça. C'est assez pitoyable. C'est un texte qui avait été choisi par Vox Day. En fait, je pense que l'auteur avait fait exprès pour se foutre de la gueule de Vox Day.
En fait, ce qui est très fort, c'est que c'est un texte non, de, qui a été choisi par Vox Day, un peu pour montrer le type de SF nul, qui, avec des autonomies partout, etc., qu'on peut montrer maintenant. Donc, l'auteur, c'est Chuck Tingan. Et en fait, à partir du moment où il a été nommé par. Qui a été nommé, il s'est révélé être un vrai troll. Enfin, le gars actuellement troll.
Il troll Vox Day et les Bobbies.
Comment je me suis enculé pour les Hugo? Il est vachement content d'avoir perdu. Bah, il y a deux solutions où je gagne. Où je gagne le Hugo. Et dans ce cas-là, c'est la principale ennemie du Gabergate qui viendra à ma place chercher le Hugo. Ou si je perds, j'ai fait mon boulot d'embêter aussi. Et il y avait du rubble dans toute la web parce que c'est un pseudo en fait. Donc je suis Chuck Tingan, je ne suis pas Chuck Tingan.
Il a acheté un nom de domaine pour faire chier, je sais plus quel nom de domaine, rien que pour faire chier les Rabbit Puppies. Mais je sais pas si c'est pas rabbitpuppies.com d'ailleurs,
ouais, c'est aussi,
qui renvoie sur son site.
C'est un vrai troll vachement intéressant, on sait pas pour l'instant qui c'est, mais c'est un gars qui a de l'humour et qui y va à fond. En ce moment, il publie des photos de jeunes, alors je ne sais pas quel belâtre, mais de jeunes beaux, musclés, costauds, en disant ça pourrait être mon portrait, ça ne l'est pas, mais il essaie de les enfuir à fond.
Voilà. Et puis les autres textes sont soit des textes ultra militaristes sans aucun intérêt, soit un texte qui est là uniquement pour dire du mal de John Scalzi.
Par contre, je vois Jérôme Vincent a noté le nom de Chuck Tingle pour acheter les droits.
Hein. Ouais.
Un autre dernier point, Naomi Kritza, la fille qui a gagné, n'a pu faire partie de tous les nominés parce qu'il y en a un qui s'est retiré.
D'accord.
Donc, un bon texte nommé par Vox Day qui s'est retiré, et elle était la sixième, elle passait.
C'était un bon texte qui a. Qui...
Je ne l'ai pas lu, mais c'était un gars qui était suffisamment anti Vox Day pour se retirer.
Okay.
Et pour finir, la catégorie Best Related Work qui contient en gros les essais. Donc ça, là, c'est No Award qui a gagné. Il y avait un texte qui, pour ma part, me paraissait assez intéressant, qui est le Between Light and Shadow, qui est un compte rendu de. C'est un gars qui est absolument fan de Gene Wolfe, qui a longtemps échangé avec lui et qui décrit tous ses livres. Alors, j'ai pas lu dans le détail, mais au moins il y avait un minimum de boulot. Bon, de toute façon, il pouvait pas gagner parce qu'il a été édité par Castalia House. Le deuxième texte qui était à peu près lisible, c'est un gars qui a pris, je suppose que vous êtes, il y a des rôlistes ici, il a pris le manuel du joueur de Advanced Dungeons and Dragons, où à la fin, il y a une liste des textes à lire. Gary Gygax, quand il a écrit le manuel des joueurs, il a fait, vous devriez lire Nightbird, vous devriez lire ça. Et donc le mec a fait des critiques de tous ses bouquins dans une optique jeu de rôle. J'en ai lu, ça avait l'air franchement léger. Mais au moins, c'était pas insultant, c'est déjà bien. Ensuite, il y avait un texte de Vox Day qui s'appelle SJW Always Lie. Alors, SJW, c'est les Social Justice Warriors. C'est en gros, ceux qui l'appellent comme ça, c'est tous les gens qui l'aiment pas. Qui sont censés être les gauchistes qui font chier Internet avec la politique.
Mais les politiquement corrects.
Donc, c'est un texte qui n'a aucun intérêt. C'est juste pour dire du mal de ces gens-là pendant plusieurs pages.
Pour lancer sa nouvelle polémique sur ils sont tous des pédophiles.
Ah, ça, c'est un autre texte encore.
Ah ouais,
ouais. Ensuite, il y a... Safe Space as Rep Room. Donc lui, c'est Daniel Hennes. Alors sa théorie, c'est que la SFWA et le milieu de la SF, c'est que des pédophiles. Donc il vous le démontre par plusieurs cas. Donc, ce sont des pédophiles.
Tous les vrais SF de gauchistes, là, c'est des pédophiles.
Donc il prend plusieurs cas. Il commence par Arthur C. Clarke, sur lequel il y avait eu un article disant qu'il était pédophile, qu'il avait fait des trucs bizarres à Sri Lanka et tout. Sauf que le journaliste qui avait fait l'article avait avoué plus tard que c'est un truc qu'il avait fait pour se faire mousser, que c'était complètement faux. Donc le gars commence par un truc faux. Après, il lui prend l'exemple du fils de Asimov qui aurait fait des trucs douteux sur un tournage de film. Sauf que c'est le fils de Asimov, c'est pas Asimov, donc ça n'a pas de rapport direct avec la CFWA. Et ensuite, il parle de Samuel Delany. Il dit ouais, Samuel Delany, il a soutenu une association qui défendait la pédophilie. Et la SFWA lui a quand même donné le Grand Master Award. Donc tous les gens qui aiment Delany sont des soutiens de la pédophilie.
Je pense qu'il fait allusion aussi au Blindagon, qui lui est une affaire à tester, mais bon.
Je crois qu'il y a quand même une affaire, oui, il y a une affaire ou deux qui sont vraiment des trucs. Ouais,
qui remontent à 50 ans.
Hein. Ouais. Et le dernier cas, c'est Marion Zimmer Bradley. Donc là, on passe au dernier texte de la sélection, qui est The Story of Moira Gland. Alors Moira Gleiland, c'est la fille de Marion Zimmer Bradley et de son, son mari de l'époque, dont je me souviens plus le nom, Charles quelque chose. Walter Greene, ouais.
Pour montrer l'étendue du désastre, Best Related Work, normalement, c'est là qu'on trouvait tous les essais critiques intelligents de la science-fiction, que même quand les fictions étaient moins intéressantes, là on trouvait les grandes biographies, les grands textes critiques, les grandes analyses globales de la SF. Best Related Work, c'était la section la plus intéressante. Et on se retrouve avec des articles de chiens.
Oui, ceci dit, avant, on a eu des...
Alors pour le Moira Gleiland, je vais faire un résumé rapide. Alors c'est un texte qui est bourré de fautes d'orthographe, qui a des phrases qui ne sont même pas anglaises. C'est la fille de Marion Zimmer Bradley, et ce qu'elle raconte, c'est que ses parents voulaient un fils, et donc à partir de l'âge de 6 ans, ils essaient de le transformer en garçon en le violant, violant régulièrement, jusqu'à l'âge de 12 ans où elle a pu courir plus vite. Et la thèse de ses parents, c'était que les gens étaient naturellement homosexuels et donc pédophiles. Donc elle délire sur ça pendant 3-4 pages. Et la conclusion de l'article, c'est « De toute façon, donc, j'ai vécu ça. Donc tous les homosexuels sont tous pédophiles. Ils sont tous pour la pédophilie. Et donc, il faut interdire le mariage homosexuel. » Et vous lisez ce texte qui fait 5-6 pages et c'est atterrant d'un bout à l'autre.
C'est-à-dire que Marion Zimmer Bradley est peut-être, si je me souviens bien, un mariage de convenance avec Walter Greene, qui était
oui, oui.
Pédophile.
Oui, mais bon. Effectivement, ce qui est arrivé à la fille, c'est vrai. Mais parce que Walter Greene a fini inculpé de pédophilie, il est mort en prison vers 92.
Ce qui est d'avance, c'est que des gens avaient voté pour ça.
Ouais. Et surtout que le texte est écrit, je vous dis, c'est un anglais qui est.
L'essai qui a eu Hugo, il est publié par Boxday, mais c'est un vrai essai énorme sur
Non,
il n'a pas eu.
Il y a une
ça a été No Award.
Ah, c'était le seul truc.
C'était le seul truc lisible potable. Où il y avait, semble-t-il, du vrai boulot, quoi. Ouais, voilà.
Enfin, c'était peut-être pourri, mais au moins ça parlait d'Inwolf, il y avait une tentative de faire quelque chose.
Voilà, donc il est
voilà. Non, mais bon, c'est pas la première fois que les gagnants des Hugo sont.
Voilà, donc pour l'année prochaine, vous vous accueillez tous à la Worldcon suivante et vous votez tous aux présélections après avoir lu tous les textes. Moi, cette année, j'avais aussi...
Moi, j'ai deux textes traduits en anglais, alors votez pour moi.
Moi, dans la catégorie graphique, j'avais voté pour Aurélien Police, malheureusement, il n'a pas été nominé. Mais je pense qu'en faisant une cinquantaine de personnes, il pourrait être nominé, ce serait rigolo. Parce que les dessins dans ces catégories-là sont assez effroyables. Bah après, il y a des listes qui sont disponibles sur Internet. On peut suivre des blogs où il y a les favoris des présélections. Voilà, merci.